Je cède maintenant la parole à Sylvain Allemand qui va présenter Yves Michaud.
Merci à vous, Gabriel Leroux, de me laisser encore une fois l'honneur d'introduire une séance et surtout cette dernière séance qui m'offre l'occasion de remercier encore une fois de vive voix au nom de Mireille Appelmuller, déléguée générale de l'Institut pour la Ville en Mouvement, mais également François Hacher que je vois dans l'auditoire, dans le public et qui est responsable du comité scientifique de cet Institut pour la Ville en Mouvement. Merci à vous, Yves Michaud, d'avoir accepté le principe de cette programmation. J'ai été personnellement très agréablement surpris de la manière dont vous avez réagi lorsque je vous ai proposé de travailler sur le thème des mobilités et du mouvement vous avez non seulement accepté mais vous êtes approprié cette problématique en introduisant dans la programmation d'autres noms de spécialistes auxquels je n'avais pas forcément pensé à tort bien évidemment. Alors je dois avouer et prendre à témoin le public Yves Michaud que j'ignorais votre intérêt pour ces questions de mobilité et de mouvement. Et bien en fait c'était tout simplement parce que je n'avais pas perçu d'emblée un lien qui est pourtant évident entre le mouvement et les arts, l'art d'une part et la violence d'autre part, l'art et la violence qui sont deux thèmes de réflexion que vous poursuivez depuis des années, Yves Michaud. Vous êtes spécialiste de l'art, Yves Michaud, est-il besoin de le rappeler, pour avoir été notamment le directeur de l'École nationale des beaux-arts. On vous doit un ouvrage qui fait partie maintenant des classiques, La crise de l'art contemporain, Utopie, démocratie et comédie. Et comédie, c'est bien ça, paru au PUF il y a de ça une dizaine d'années. Et s'intéresser à l'art, c'est forcément rencontrer le mouvement, bien évidemment, sur son chemin. Et inversement, s'intéresser au mouvement, c'est forcément rencontrer l'art. Et d'ailleurs, permettez-moi de rappeler une anecdote, c'est que les actes du colloque de Cerisy, qui a en grande partie inspiré la programmation que nous avons proposée, devaient avoir pour couverture, c'était une proposition de François Hacher, des pendus de Calder. Il en est allé autrement pour des motifs sur lesquels je ne m'étalerai pas, mais nous avions bien cette préoccupation artistique. Nous considérions au cours de ce colloque que l'art était une entrée pertinente pour comprendre le mouvement et établir des liens avec les sciences humaines. Pour preuve, et j'en terminerai par là sur ce registre-là, sur cette question de l'apport de l'art, pour preuve aussi ce travail de chorégraphes que nous avons rencontrés, qui ont renouvelé la chorégraphie sur la base de ce qu'on appelle la notation du mouvement. Et permettez-moi de rappeler que l'Institut pour la Ville en Mouvement avait organisé une soirée avec ces chorégraphes devant un aéropage d'universitaires et qu'elle n'avait pas été notre surprise de constater que le dialogue avait été très rapidement installé entre ces universitaires, ces professionnels des transports également, et puis ces artistes. Comme quoi, preuve, s'il était besoin de le rappeler, que l'art peut apporter des éclairages pertinents sur le mouvement. Vous êtes également, et j'en terminerai par là, Yves Michaud, spécialiste de la violence. Votre premier ouvrage est paru sur ce thème, il s'intitule « Violence et politique ». Non, c'était la violence, et il y a de ça une trentaine d'années, ce qui ne nous rajeunit pas forcément. Vous êtes également l'auteur de « Violence et politique », et je viens d'apprendre de votre bouche à l'instant que cet ouvrage paru la première fois en 78 vient d'être réédité, et d'ailleurs à votre insu, Yves Michaud, c'est bien ça ? Alors, s'intéresser à la violence, c'est aussi rencontrer tôt ou tard le mouvement sur son chemin, et inversement, s'intéresser au mouvement, c'est rencontrer tôt ou tard la violence, surtout si l'on fait, parce que bon, j'en conviens, le lien n'est pas si évident que ça, mais on finit par rencontrer la violence quand on s'intéresse au mouvement, surtout quand on fait l'hypothèse que la violence découle de frustration. Et bien précisément, dans des sociétés caractérisées par des mobilités généralisées, des individus peuvent éprouver une certaine frustration devant le droit à la mobilité implicite qui leur est reconnu et l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent de se déplacer effectivement, ne serait-ce que pour accéder à la ville, à leur emploi, quelque chose que François Hacher a très bien exposé au cours de son intervention. Je n'y reviens pas. Donc voilà de bonnes raisons effectivement de s'intéresser au mouvement lorsqu'on s'intéresse à la violence, à la politique et à l'art. Vous allez nous indiquer, Yves Michaud, sans doute d'autres motifs au cours de votre exposé qui vous ont conduit à vous intéresser aux différentes facettes de la mobilité. Laissez-moi encore quelques secondes, le temps pour moi de remercier encore une fois Gabriel Leroux et toute son équipe, Céline, Mathilde. Vous pensez que l'Université de tous les savoirs est quelque chose qui s'organise facilement? Effectivement, on peut s'y rendre, participer aux conférences gratuitement, l'accès est libre. En fait, derrière, il y a tout un travail, le travail d'une équipe très enthousiaste, et j'ai pu le constater en me retrouvant, une fois n'est pas coutume, dans les coulisses de l'Université de tous les savoirs. Eh bien, merci encore une fois à vous, Gabriel Leroux, Céline, Mathilde, de votre professionnalisme et enthousiasme communicatif. Voilà. Merci.
Bien, merci beaucoup de toutes ces choses aimables, et notamment de ces choses aimables à destination de l'équipe de l'Université de tous les savoirs, qui effectivement tient en main la chose et la développe, puisque comme vous le savez, comme on vous l'a annoncé, nous allons lancer l'Université de tous les savoirs en direction des lycéens. D'ailleurs, je précise que ça sera en direction des lycéens et que nos fidèles auditeurs ne seront pas les bienvenus, si je peux me permettre de le dire, puisque ce sera, et il y aura une sorte de racisme jeuniste, puisque nous essayons de toucher un public nouveau et dont les intérêts sont probablement différents. Bien, mais rassurez-vous, les conférences régulières continueront, et je souligne d'ailleurs qu'un des axes du développement de l'Université de tous les savoirs sous sa forme traditionnelle, c'est maintenant le développement du site Internet avec la mise à disposition des textes le plus rapidement possible, sous la forme la plus accessible possible, avec éventuellement la perspective un jour d'avoir une version bilingue de ce cycle. Bien, je m'en tiens là pour ces considérations extérieures et je vais en venir à mon sujet. Je préviens seulement que il y a quelques années, disons qu'au moment où j'organisais l'Université de tous les savoirs de l'an 2000, le déplacement était une question qui m'intéressait, je vais vous en parler, mais je n'aurais pas imaginé de me mettre parmi les conférenciers qui y entraient. Il se trouve que l'étude de l'art contemporain dans les derniers travaux que j'ai faits, notamment dans le livre « L'art à l'état gazeux » qui est paru en 2003, m'a obligé, je dirais obligé, puisque je ne m'attendais pas du tout à ça au moment où je commençais mon travail de recherche, m'a obligé à prendre en considération le phénomène du tourisme. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses dans l'art le plus actuel que je ne parvenais pas à comprendre sans faire intervenir autre chose que le monde de l'art, et donc en faisant intervenir les déplacements, les événements et la quête, je dirais, de sensations qu'il y a dans le tourisme. C'est ainsi que progressivement j'ai été amené à m'intéresser aux déplacements, et que je me retrouve ce soir à fermer en quelque sorte ce cycle de conférences. Alors ce cycle de conférences vous aura permis de vous faire une idée d'un monde où les déplacements à grande échelle tiennent une place très importante et pourquoi pas essentielle. Un monde qu'on dit souvent un monde mobile et fluide, et que certains, notamment le sociologue et philosophe anglais Zygmunt Bauman, appellent aussi un monde liquide. Alors, bien évidemment, il ne faut pas que, compte tenu de la perte des repères qui est caractéristique de l'époque contemporaine, nous y voyons quelque chose de strictement inédit. Non, c'est absolument pas vrai. Dans l'histoire humaine, il y a continuellement eu des déplacements. Et pensez simplement au phénomène d'exode, les exodes de peuples et de tribus, ou pensez au phénomène de colonisation, et pas seulement la colonisation telle qu'elle s'est produite à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, mais bien avant, aussi bien la colonisation dans les États antiques que la colonisation à la suite des découvertes du Nouveau Monde. Mais enfin, en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, l'ampleur du phénomène et je dirais aussi sa banalité rendent la situation effectivement tout à fait nouvelle. Alors, je commencerai par signaler que ces déplacements ont deux aspects majeurs, dont l'un a été peu traité dans cette série, mais je vais y revenir rapidement, et l'autre beaucoup plus. D'un côté, il y a le déplacement des choses et des idées, on n'en a pas parlé ici, et puis il y a aussi, et ces déplacements sont au cœur de ce qu'on appelle aujourd'hui la globalisation, et puis bien sûr, il y a les déplacements des personnes, qui étaient plus particulièrement le thème choisi, et sur lequel nous avons concentré cette série de conférences. Alors, quelques mots d'abord, pour simplement bien dresser le paysage et le cadre, quelques mots sur le déplacement des choses et des idées. Alors, ce déplacement des choses et des idées, nous l'avons abordé, puisque l'Université de Toulouse-Savart, c'est une sorte d'encyclopédie en renouvellement continuel. Nous l'avons abordé lors des conférences sur la globalisation, et puis aussi en l'an 2000, mais je crois qu'il faut y revenir, simplement pour souligner l'importance des déplacements des choses et des déplacements des idées. Alors, pour des déplacements des choses, eh bien, il faut tout de suite faire référence à un terme, c'est le mot de logistique. La logistique, c'est aujourd'hui à la fois une science appliquée, c'est une discipline technologique, hautement scientifique, et en même temps, c'est un ensemble de pratiques, y compris commerciales. Vous voyez d'ailleurs couramment des camions qui appartiennent à des entreprises de logistique. Aujourd'hui, la logistique est un des secteurs clés de la vie économique, de la vie militaire, bien évidemment, d'ailleurs c'est en grande partie son origine, et aussi de l'action humanitaire. Ce dont traite la logistique, c'est faire en sorte que des choses arrivent au bon moment, là où on en a besoin, et au meilleur coût. Alors ça vaut pour les pièces d'une voiture, lorsqu'il y a une usine de montage, ça vaut aussi pour les composants de votre ordinateur, lorsque vous commandez un ordinateur avec une configuration personnelle, eh bien les pièces viennent d'un peu partout dans le monde, notamment de l'Asie, et le montage se fait très souvent pour beaucoup d'ordinateurs, actuellement en Irlande ou au Portugal. Est-ce que vous qui avez commandé votre ordinateur dans sa configuration particulière, c'est qu'il arrive vite. Et ça, c'est le problème des logisticiens. Mais la logistique a une origine militaire. D'ailleurs, les grands spécialistes, au départ, ont été des militaires, puisque quand on monte une expédition militaire, il faut acheminer des troupes, mais aussi savoir les rapatrier. Il faut acheminer des moyens d'intendance et puis maintenir le flux de ces moyens au niveau nécessaire. Il faut bien sûr qu'arrivent les approvisionnements en munitions. Il faut aussi pouvoir s'occuper des blessés et des morts, et pouvoir aussi les rapatrier. Lors du tsunami de la fin de l'année 2004 en Asie du Sud-Est, on a bien vu qu'une assistance humanitaire nécessitait des moyens logistiques extrêmement lourds, et que d'ailleurs, en l'occurrence, pour les premiers secours, c'était les moyens militaires qui étaient les mieux adaptés, et qu'il y avait bien loin, on vient d'en reparler dans l'actualité récente, il y avait bien loin de dons en argent à l'arrivée effective de moyens pour une assistance sur place. Voilà pour la logistique. Il y a eu une excellente conférence sur la logistique dans l'Encyclopédie de tous les savoirs de l'an 2000, et je vous y renvoie si vous voulez en savoir plus. Le déplacement des idées, lui aussi, est extrêmement important. Et et j'emploie le mot idée en un sens très large, puisque je tiens à inclure non seulement les idées en termes de représentation intellectuelle, mais aussi les émotions que suscitent les idées. Alors, il est bien évident que aujourd'hui, notre vie dans le déplacement consiste très souvent à avoir affaire à des déplacements d'idées. Pensez aux rumeurs, pensez aux modes, pensez aux tendances, pensez aux émotions, les vagues d'émotions qui circulent aussi vite que l'information ou la surinformation ou parfois la désinformation. très rapidement une rumeur, une vague d'émotion, une vague de terreur, pensée bien sûr au 11 septembre 2001, va gagner le monde et toucher des milliards d'êtres humains. Vous vous réveillez à 6 heures du matin et puis s'annonce une journée qui est banale, et puis à 7 heures vous apprenez que Lady Di est morte dans un accident de la circulation à Paris, et commence 15 jours ou 3 semaines d'émotion occidentale universelle. Cela dit, il y a eu aussi une conférence sur ces déplacements d'idées, cette fois-ci dans le cycle sur la mondialisation, mais il ne faut pas penser seulement en termes de rumeurs, de modes, de tendances et d'émotions, parce qu'il y a d'autres modes de déplacement des idées, et nous autres professeurs, nous en savons quelque chose. Ce sont les déplacements, la transmission éducative, c'est l'exposition des œuvres d'art. Après tout, une exposition, c'est une manière de faire circuler des idées. Ce sont les échanges d'idées et les colloques. Une grande partie de la vie intellectuelle consiste précisément dans ce type de déplacement, y compris avec d'ailleurs des déplacements physiques, des scientifiques et des intellectuels pour y participer. Il y a aussi des déplacements d'idées, ce que j'appelle les déplacements d'idées lents, que sont le renseignement militaire ou le renseignement économique, la collecte des données, et aussi, puisque ça fait partie des sujets qui agitent aujourd'hui l'opinion publique, il y a aussi la cession et la transmission des brevets et des droits. Céder et transmettre des droits d'auteur, c'est faire circuler des idées sous certaines conditions et en faisant payer un certain nombre de péages. Bien évidemment, et là encore je parle en professeur, nous savons peut y avoir des décalages, pour ne pas dire des conflits, entre les modes de transmission lents et puis les modes de transmission rapides et, je dirais, épidémiques. Un professeur, c'est quelqu'un qui essaye de transmettre des idées lentement et difficilement, et puis qui entre en concurrence avec la transmission épidémique par des moyens comme la télévision. Bien. Alors, j'ai rappelé ça seulement pour cadrer l'extension du sujet, et je vais me restreindre, comme il était annoncé, à la variété des déplacements humains. Alors, je commencerai par quelques considérations générales sur les déplacements humains, et ensuite je me concentrerai plus particulièrement sur deux sortes de déplacements humains contemporains. Alors, bien évidemment, les hommes sont des êtres mobiles, et qui ont, Jean-Claude Chesnais le rappelait il y a une dizaine de jours, qui ont progressivement envahi et colonisé la Terre entière, le globe. Je me souviens que, par exemple, dans un texte du philosophe anglais John Locke, dans son second traité du gouvernement civil, qui doit être quelque chose de 1789 ou quelque chose comme de 1689, pardon, dans le second traité du gouvernement civil, il a un moment cette phrase en parlant des débuts de la Terre, de l'état de nature, et au début, la Terre entière était comme l'Amérique. C'est-à-dire que pour des gens de la fin du XVIIe siècle, il n'y a pas si longtemps, la Terre était absolument vide, puisque pour eux, au XVIIe siècle, l'Amérique est vide. Alors effectivement, au fil de l'évolution humaine, les hommes ont occupé le monde, y compris d'ailleurs dans les parties les plus inhospitalières. On est toujours étonné de trouver des établissements humains dans des endroits absolument impossibles et tellement ils sont durs et inhospitaliers. Et les hommes font preuve effectivement de capacités remarquables d'adaptation au milieu. Alors, je me souviens que dans le cadre de mes études sur la violence, mais il y a très longtemps, j'avais toujours été intéressé de voir que un certain nombre d'anthropologues rapportent la capacité d'adaptation et de la mobilité des êtres humains au caractère omnivore de l'être humain. C'est-à-dire que l'être humain pouvant tout manger, il n'est pas asservi à un milieu de subsistance déterminé, il n'est pas asservi à une niche de subsistance déterminée, et c'est donc ce qui lui rendrait possible de ces déplacements. Mais on pourrait aussi raisonner à l'inverse et dire que le caractère omnivore fait peut-être aussi partie de l'adaptabilité humaine et que donc en fait il y a là un cercle. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'assez intéressant de voir comment l'homme peut s'adapter à des conditions de vie et de survie tout à fait diverses. Durant les conférences de l'Université de tous les savoirs de l'an 2000, puisque j'en ai suivi un grand nombre, j'avais été très intéressé par une conférence, je suis allé rechercher l'auteur l'autre jour en préparant celle-ci, une conférence de Roland Douce, un scientifique spécialiste de biologie, qui avait fait une conférence sur la feuille des plantes. La conférence a eu lieu le 4 mars 2000. Vous me direz, mais quelle est la relation entre la feuille des plantes et la mobilité? Eh bien, simplement, c'est que Douce nous avait expliqué une chose tout à fait simple et banale, c'est que les arbres et les plantes doivent répondre aux modifications du milieu et aux diverses attaques du milieu sans pouvoir bouger. C'est leur problème, et ils doivent rester immobiles, et ils réagissent au déficit d'eau, au déficit de minéraux, au déficit de lumière, en réorientant leurs feuilles, en les contractant, en les perdant, en développant des champignons ou certaines réactions chimiques, mais effectivement, ils ne peuvent pas se déplacer. Nous, êtres humains, bien nous pouvons aussi supporter, endurer, dépérir, rester sur place, nous déprimer. Nous pouvons aussi, et ça arrive assez souvent, nous pouvons nous révolter, et puis nous pouvons aussi faire nos bagages et changer d'endroit. Et cette mobilité nous permet de fuir des ennemis ou de fuir des prédateurs, nous permet de trouver des meilleures conditions de subsistance, nous permet aussi de trouver des partenaires sexuels, ça nous permet d'améliorer notre existence, ou ça nous permet aussi tout simplement de prendre l'air et de changer nos idées. C'est-à-dire qu'il y a un curieux paradoxe de l'être humain. C'est un animal territorial, et on le voit bien à ses réactions souvent racistes et souvent extrêmement négatives face à l'arrivée des étrangers. Mais en même temps, cet animal territorial est un animal qui est déterritorialisable, si je peux utiliser ce mot assez laid, et qui est en même temps facilement reterritorialisable lorsque... l'histoire humaine est scandée de tribus qui changent de territoire, parfois simplement d'ailleurs de manière saisonnière, et d'ailleurs nous-mêmes, les tribus contemporaines, ont une grande tendance à avoir des migrations saisonnières en période de vacances. Il y a des groupes religieux ou des minorités persécutées qui partent s'installer dans des lieux plus accueillants, ou dans des zones qui sont inaccessibles à leurs persécuteurs. Au XIXe siècle, des militants ouvriers partaient fonder des cités utopiques, notamment par exemple l'Icarie de Cabet en Amérique. Au XXe siècle, des militants internationalistes partaient propager la révolution communiste en Chine. C'est le sujet des conquérants de Malraux. Et aujourd'hui, vous savez qu'il y a une intense activité de déplacement à finalité d'immigration et matrimoniale par le biais de sites internet pour des femmes d'origine, par exemple, d'Europe centrale ou des femmes d'origine philippine. Ce sont autant là de variétés du déplacement avec des finalités extrêmement diverses. Je dirais que pratiquement il y a autant de formes de déplacement que d'histoires individuelles, et effectivement, et je ne risque pas de pouvoir parler de toutes. Alors, je vais quand même néanmoins en indiquer quelques-unes très rapidement avant de me concentrer sur deux formes particulières de déplacement. Alors, certaines formes de déplacement sont devenues pour nous si lointaines ou tellement rares qu'elles n'ont guère de sens que métaphorique. Ainsi, le voyage du naufragé, qui est une constante dans la littérature épique et dans la littérature poétique, dans les récits maritimes aussi, le voyage du naufragé à la manière de Ulysse dans l'Odyssée. Eh bien, aujourd'hui, l'Odyssée, c'est plutôt la métaphore d'un long voyage, pas forcément un voyage de retour. C'est une sorte d'enchaînement d'expériences, une sorte peut-être aussi de phénoménologie de la conscience au fil de ces expériences, mais dans la réalité... Même s'il y a encore malheureusement des naufrages, il n'y a plus guère de naufragés qui traînent par le monde pour un retour improbable. Et si vous y réfléchissez juste un peu, l'ironie veut qu'on parle plus facilement de naufragés des autoroutes que de naufragés des océans. Les naufragés sont aujourd'hui recherchés, secourus, et quelquefois, quand il s'agit de navires portant des immigrants dans le détroit de Gibraltar, ils sont rapatriés d'office quand ils sont indésirables. Le voyage d'exploration aussi est quelque chose qui a en grande partie disparu. Il s'est fondu, je dirais, soit dans le tourisme, j'avais en parlé tout à l'heure, soit dans la production médiatique. Hein, un explorateur, aujourd'hui, c'était plutôt un cinéaste qui va faire un documentaire d'aventure préfinancé par Discovery Channel ou National Geographic. Et il part en général dans des réserves où les bêtes sauvages vont jouer une sorte de rôle de composition en étant plus près du studio de cinéma ou du zoo que de la jungle, vraiment. L'aventure s'est balisée, organisée, sécurisée. Et je dirais que même une sorte de voyage d'exploration qui a eu beaucoup d'importance dans l'imaginaire académique, en tout cas du XXe siècle, même les ethnologues et anthropologues ont disparu en même temps que disparaissaient les primitifs. Et d'une certaine manière, l'anthropologue en apprend plus sur Haïti, dans la banlieue de New York, où il y a une très forte immigration haïtienne, qu'en allant à Haïti même. Quant au professeur d'anthropologie, il lui arrive d'être éventuellement enlevé et négocié contre une rançon, au même titre qu'un vulgaire touriste en voyage. Il y a une sorte de voyage aussi qui s'est éloigné, ou plutôt qui prend une autre forme, c'est le voyage à destination des colonies, dont parlait toute une littérature coloniale, depuis Octave Mirbeau et Claude Farrère jusqu'à André Malraux, et qu'on retrouve aussi dans Siménon, dans le recueil de ses articles de presse des années 30, qui est repris sous Mes apprentissages. Ben, évidemment, il n'y a plus de colons pour partir en première ou deuxième classe sur un paquebot qui quitte Marseille ou Bordeaux et aller rejoindre leur comptoir commercial ou leur poste administratif. Cela dit, je pense qu'il existe encore des colons, entre guillemets. Ce sont plutôt ce qu'on appelle aujourd'hui les expatriés. Il y a des chroniques, d'ailleurs, dans les journaux sur eux et leur mode de vie. Ce sont des expatriés, soit qui se consacrent au business, soit qui se consacrent à l'humanitaire. Il y a d'autres déplacements qui sont heureusement des souvenirs lointains, même s'ils réapparaissent de temps à autre à l'occasion de crises politiques et de guerres civiles. Ce sont les exodes, invasions et retraites. Aujourd'hui, nous avons plutôt tendance à traiter cette rubrique sous celle de réfugiés, avec bien sûr une organisation de l'aide et de l'assistance aux réfugiés. Les dernières vagues, je dirais, de ces types de déplacements, ça a été les réfugiés au Soudan, au Congo actuellement, et pas si lointainement aussi, en Bosnie, en Serbie et au Kosovo. Alors, je le cite donner un caractère complet à mon parcours, mais le XXe siècle a malheureusement inventé une forme de voyage involontaire bien particulier, qui est le fruit monstrueux de la persécution et de la technologie. C'est le voyage de déportation, le voyage vers les camps de concentration et d'extermination, le voyage qui est lui-même d'ailleurs une première étape de l'extermination. Je n'en parlerai pas parce que je ne considère pas que ce soit réellement, bien qu'il y existe des camps de personnes déplacées, je ne considère pas que ce soit vraiment une forme de déplacement, mais c'est un transport d'individus considérés comme des choses. Et je crois que ça serait véritablement étendre la subtilité analytique bien loin que de traiter ça dans le cadre des déplacements. En fait, je dirais que les déplacements des personnes ont aujourd'hui quelques formes particulières, et c'est là que je vais maintenant sur lesquelles je vais me concentrer, quelques formes particulières. Une première forme dont je ne parlerai pas parce que à la fois nous la connaissons bien et en même temps elle est très difficile à appréhender, c'est les déplacements de ceux qui aujourd'hui, selon les termes de l'anthropologue américain James Clifford, vivent dans le déplacement, vivent et travaillent dans le déplacement. Alors ça couvre bien sûr une certaine catégorie d'hommes d'affaires, les navigants, les artistes en tournée, ceux qu'on appelle les saisonniers, les gens du voyage, mais il faudrait pas oublier de mettre dans cette catégorie aussi les gens qui sont à la dérive en quelque sorte ou sur la route, ceux qui vivent dans le déplacement, qui sont installés en quelque sorte dans le déplacement. Mais les deux formes principales, je dirais, du déplacement contemporain, et ce sont les deux sur lesquelles je vais m'attarder maintenant, c'est d'un côté l'immigration et de l'autre le tourisme. Alors, on en a parlé beaucoup dans cette série de conférences, et c'est moi qui ai souhaité très consciemment que on ne les sépare pas, on ne sépare pas trop ces deux formes de déplacement. Ça ne veut pas du tout dire qu'il faille les confondre, hein. Bien évidemment, il faut toujours laisser la place à des distinctions conceptuelles claires, mais il faut voir que c'est les mêmes facilités de transport, c'est les mêmes aussi modes de diffusion des médias qui permettent de diffuser en quelque sorte la motivation à ces deux sortes de déplacements. C'est souvent parce que l'immigrant potentiel, apprend quelque chose sur un pays à travers les moyens de communication de masse et aussi les informations que lui donnent ses proches souvent immigrés, qu'il prend l'envie d'aller quelque part, et bien évidemment, c'est dans l'offre touristique, dans les offres de catalogue touristique, ou dans les offres, je dirais, médiatiques, que les touristes aussi prennent leur motivation. Et le transport aérien, contrairement à, il y avait récemment une interview du responsable européen des questions de sécurité et des questions d'immigration, il disait que une des tâches aveugles aujourd'hui du contrôle de l'immigration à destination de l'Europe, c'était plus les aéroports que les frontières terrestres ou les frontières maritimes, contrairement à ce que disait d'ailleurs Jean-Claude Chenet ici. Je sais bien que l'Italie a beaucoup de côtes maritimes et qu'elles sont difficilement contrôlables, mais il est très difficile dans les aéroports de faire le tri entre immigrés et touristes, ne serait-ce que tout simplement parce que les touristes qui arrivent ou ceux qui rentrent chez eux n'ont pas envie de se soumettre à des contrôles indéfiniment, très trop longs et tatillons pour pouvoir rentrer. Alors, une chose aussi qui m'a frappé dans les conférences, c'est que le chiffre d'affaires du tourisme international, et encore une fois, c'est un chiffre d'affaires qui est très approximatif, mais on calcule qu'il est à peu près de 360 à 400 milliards de dollars par an. Or, j'ai appris avec grand intérêt dans la conférence de Jean-Claude Chenet que les immigrés, si on considère l'ensemble du monde entier, et là, je pense que le chiffre est lui aussi approximatif, les immigrés renvoient dans leur pays d'origine environ 400 milliards de dollars. Donc on a affaire à des phénomènes économiques qui sont comparables par leur volume et par leur importance et par leur contribution aussi bien au développement économique que à la globalisation de l'économie et des communications. Alors je vais me concentrer maintenant dans le temps au cœur de mon exposé, je vais me consacrer à l'étude de deux formes du déplacement, le déplacement du migrant et le déplacement du touriste. Et je vais le faire d'une manière un peu particulière, en tout cas par rapport au projet initial que j'avais. Je vais le faire en recourant à la littérature. Pourquoi ? Parce que comme nous vivons dans un monde scientiste, et c'est pas moi qui vais le condamner, puisque j'ai beaucoup de respect pour les approches scientifiques, dans une approche scientifique des choses, nous nous fions surtout aux recherches économiques, démographiques, sociologiques et aux apports des sciences humaines, comme si une fois qu'on avait donné un pourcentage, un nombre d'entrées, un montant en milliards de dollars, comme je viens de le faire, ou d'euros, on avait donné le tout d'un phénomène. Ou alors, et on contrebalance ça très souvent à partir de, je dirais, d'intuitions personnelles, c'est-à-dire finalement d'un point de vue qui est purement subjectif. Et il me semble que la littérature peut aussi être une source de connaissances. Je pense qu'elle a aussi sa place dans l'université du savoir, et je dis bien une source véritablement de connaissances, parce que elle a ceci de particulier, c'est qu'elle élève des expériences individuelles à une certaine forme, elle donne une forme littéraire qui est une forme artistique avec un certain degré d'universalité, et elle fait ainsi dépasser la subjectivité pure de ces expériences. Et puis elle a aussi, la littérature a aussi ceci de particulier, qui est quelque chose que je n'arrive pas à m'expliquer, mais qui est très intéressant, c'est que la littérature, notamment romanesque, propose des scénarios et des hypothèses. Elle travaille dans l'élément de la fiction, et donc il n'y a rien de surprenant à ce qu'elle nous propose des scénarios et des hypothèses, mais elle est obligée, le littérateur, le romancier, est obligé d'ajouter un certain nombre de détails de rendre concrètes ces hypothèses et de leur donner ainsi une capacité, je dirais, d'analyse plus forte que la simple hypothèse philosophique. Je suis souvent frappé que le philosophe, en mobilisant toute sa puissance mentale pour analyser, par exemple, ce que c'est qu'un étranger ou ce que c'est qu'un immigrant ou ce que c'est qu'un voyageur, n'arrive pas forcément à beaucoup mieux que ce que fait le romancier qui a élaboré en détail la vie de l'étranger dans l'étrangeté de ce qu'il vit ou la réalité concrète du déplacement touristique, mais transposé au niveau d'une forme littéraire. Et donc, je vais vous parler de l'expérience du déplacement du migrant et du déplacement du touriste à travers deux livres très différents. Et je commencerai à propos du migrant par une nouvelle que j'aime beaucoup du prix Nobel 2001 des Caraïbes, caraïbo-anglais et d'origine indienne en plus, Naipaul. Cette nouvelle figure dans un livre de 1971 qui est réédité et disponible en français, qui s'intitule « Dans un état libre », « In a free state » en anglais. Et c'est une nouvelle assez brève, enfin d'une quarantaine de pages, qui s'appelle « Un parmi tant d'autres ». Et je vais vous parler d'abord de cette nouvelle. L'histoire est simple et même assez banale, puisque c'est celle de la réussite d'un immigré, mais vous allez voir tout de suite avec son ambiguïté. La nouvelle commence d'une manière très simple, c'est que le narrateur, c'est un Indien, il s'appelle Santosh, nous annonce « Maintenant, je suis citoyen américain, je vis à Washington et tout le monde va penser que je me suis bien débrouillé ». Et effectivement, il a des papiers, il est citoyen américain et il s'est bien débrouillé. Alors, d'où vient-il ? C'est un homme qui doit avoir une quarantaine d'années. Il vient de Bombay, où il vivait heureux. Et là, qu'est-ce qu'il faisait ? Il était le cuisinier, le domestique d'un riche homme d'affaires plus jeune que lui. On apprend que l'homme d'affaires a 37 ans. Comme un domestique indien, bon, la nouvelle est 1971, je suppose qu'avec le développement de l'Inde, les conditions sociales ont légèrement changé, mais comme un domestique indien de cette époque, il sert son maître dans la journée, et le soir, il sort sa literie et il dort dans la rue. J'ai moi-même vu, il n'y a pas si longtemps, lors d'un séjour en Inde, les domestiques dormir de l'ambassade de France, dormir sur le paillasson. Le soir, il dort sur le paillasson comme les chiens dorment sur le paillasson. Il dort devant la porte de la maison, dans la rue, avec les autres domestiques de la rue. Au moment de la mousson, il rentre et il vit dans un placard sous l'escalier de la maison. Et il s'estime extrêmement fortuné parce qu'il a le droit de faire ses besoins dans la maison. À la différence des autres domestiques de la rue qui le matin s'égaillent pour aller faire leurs besoins discrètement ailleurs. Alors il se trouve que son patron est envoyé en poste à Washington. Et la première crainte c'est un fonctionnaire qui est nommé dans une organisation internationale à Washington ou dans une ambassade. Et Santosh commence par avoir peur d'être abandonné. Et là, on apprend que être abandonné pour lui, c'est-à-dire perdre son travail, ça l'obligerait à retourner dans son village. Et là, on apprend auprès de sa femme et de ses enfants. Donc il a une femme et des enfants qu'il a quittés, et ça l'obligerait à retourner auprès de sa femme et de ses enfants, mais il n'en a pas envie, parce qu'il considère qu'il a définitivement fait sa vie à Bombay. Alors, après beaucoup d'hésitations, son patron lui propose de l'emmener avec lui, tout en l'avertissant que Washington n'est pas Bombay, et que, en particulier, son salaire en roupies ne vaudra strictement rien là-bas, et qu'il aura du mal à survivre. Mais le patron lui-même, pour autant, n'est pas fabuleusement riche, puisque lui aussi, c'est un Indien, même de classe aisée, qui est payé en roupies. Alors, je vous conseille la lecture de ce livre, qu'on trouve actuellement. D'abord, vous avez des péripéties assez désopinantes du voyage de Santosh lorsqu'il prend l'avion avec son maître pour aller à Washington. Alors il n'a jamais fait de valise, il sait faire les valises de son maître, mais lui il fait des baluchons dans des châles. Donc il a déjà du mal à entrer dans l'avion avec ses hardes. Il n'a évidemment bien sûr jamais pris l'avion, il n'a jamais utilisé des toilettes d'avion. Ce qui fait qu'il va il va les souiller de complètement parce qu'il comprend absolument pas comment ça marche. Il va se faire agresser par les hôtesses. Il a évidemment, quand on lui propose une boisson, il choisit n'importe quoi. Il est terrifié. Il prend du champagne. Ce qui fait qu'il va pas bien. Il sait pas quoi faire de son jus de bétel. Il est obligé de l'avaler. Ça le rend malade. Bon, de fil en aiguille, il arrive à Washington quand même. Et à Washington, il va découvrir que d'abord, il peut avoir un placard qui est plus grand. Il n'a pas un placard sous l'escalier, mais il a un placard beaucoup plus grand. On comprend que c'est une sorte de cagibi vers la cuisine. Il comprend aussi très rapidement que son salaire ne vaut rien, puisqu'il dépense ses $7 de salaire mensuel en une seule sortie. Il comprend aussi, puisqu'il sort peu, que le monde, c'est quelque chose qu'on voit à la télévision, et il nous dit que les Américains, pour lui, sont plus vrais dans les publicités que ceux qu'il voit dans la rue. Et puis, il sort quand même un petit peu, il s'aventure un petit peu, et les seules personnes qu'il rencontre qui sont comme lui sont des clochards va-nu-pieds, parce que lui, il est littéralement va-nu-pieds, des clochards qu'il rencontre dans un parc, et puis des adorateurs de Krishna, comme vous pouvez en voir même à Paris, qui font des processions. Alors, il va s'enhardir, élargir le cercle de ses sorties. Il va se rendre compte aussi qu'il a du charme, puisqu'il s'était jamais regardé dans une glace, mais la domestique noire de l'étage du dessus commence à le trouver intéressant et lui fait des avances. Et puis, de fil en aiguille, il va abandonner son maître, travailler dans un restaurant indien, épouser la domestique noire et se retrouver citoyen américain. Encore une fois, l'histoire est tout à fait banale, et c'est celle, je pense, réellement, de millions d'immigrants qui, un jour ou l'autre, arrivent à avoir des papiers et à s'installer dans un pays. Et d'ailleurs, dans le restaurant indien où il va devenir cuisinier, au début, il ne comprend pas pourquoi les serveurs mexicains sont continuellement obsédés par ces fameux papiers. Et c'est le jour où il comprend de quoi il s'agit qu'il découvre que lui-même est sans papiers. Alors, l'important, comme dans beaucoup de textes de Naipaul, c'est dans la perception extrêmement fine, extrêmement subtile de ce qu'on peut appeler l'énigme de l'arrivée, et en utilisant le terme l'énigme de l'arrivée, je cite en fait le titre d'un des romans les plus réussis aussi de Naipaul, qui s'appelle L'énigme de l'arrivée. C'est l'histoire justement d'un Antillais anglais qui arrive et qui s'installe dans la campagne près d'Oxford et qui regarde tout comme si c'était une énigme. Et bien sûr, le déplacement rend énigmatique ce que l'on trouve autour de soi. Alors, le voyage en avion, ça fait pas de problème. L'appartement de Washington, la télévision, les Noirs, dont Santoche a une sainte frousse et qu'il déteste. Il est raciste comme un Indien. Je ne dis rien de désobligeant pour les Indiens, mais il y a un racisme anti-noir assez répandu en Inde. Les déplacements rendent aussi bizarres les repères sociaux les plus ordinaires. Par exemple, quand il arrive à Washington, la première chose que fait Santoche, c'est qu'il se demande où se réunissent les domestiques comme ça se faisait à Bombay. Parce qu'à Bombay, les domestiques se réunissaient dans la rue le soir et discutaient entre eux. Et il ne trouve pas l'endroit où se réunissent les domestiques de Washington. Ce qu'il trouve, c'est seulement, comme je vous ai dit, des hippies et des clochards. Et il se voit comme eux, puisque lui-même va nu-pied comme eux sont va nu-pied. Et je vous cite un passage, je vais vous en citer plusieurs, au moment où il s'aventure près des adorateurs de Krishna. Et là, il a une impression bizarre. Je cite le texte. C'était un peu comme il parle de la danse des Krishna dans le parc. C'était un peu comme une danse de peau rouge dans un film de cowboys. Mais ce qu'il chantait, c'était en sanskrit et à la louange du Seigneur Krishna. J'étais très content. Puis il m'est venu une idée qui m'a troublé. Peut-être à cause de l'aspect métissé des danseurs. Peut-être à cause de leur mauvaise prononciation du sanskrit et de leur accent. J'ai pensé que ces gens étaient maintenant des étrangers, mais que sans doute autrefois, ils avaient été pareils à moi. C'était comme dans les histoires. On les avait amenés là, il y a très longtemps, en captivité parmi les Hopshi. Alors les Hopshi, c'est les Noirs, hein. Et ils étaient devenus les représentants d'un peuple perdu, semblable à nos gypsies vagabonds, et avaient oublié ce qu'ils étaient avant. Du coup, perdu dans ce monde étrange, Santoche n'ose pas sortir. Et puis, comme tout est hors de sa portée, et que tout est trop cher, il vit comme un prisonnier ou comme un reclus. Il reste la plupart du temps dans l'appartement de son maître. Il n'a pas grand chose à faire, à part la cuisine de temps en temps. Et il regarde le monde américain à la télévision. Alors l'impression d'étrangeté va s'intensifier, mais en même temps se dissiper quand il découvre l'intérêt que lui porte la domestique noire de l'étage du dessus. Alors elle le terrorise, hein, bien sûr, c'est une noire, elle est entreprenante, sa sensualité lourde lui plaît, mais en même temps l'angoisse, et il se demande surtout pourquoi elle s'intéresse à lui. Alors il va commencer à se regarder dans le miroir et dit: jusqu'ici je m'étais jamais regardé dans le miroir. Je me regardais dans le miroir après être allé chez le coiffeur pour voir s'il m'avait bien coupé les cheveux, mais je savais pas à quoi je ressemblais. Alors il va se regarder dans le miroir, il va prendre conscience de son aspect, de ses vêtements dépenaillés, et du coup il se rend compte que les gens ont été très tolérants avec lui, qui était en haillons, hein, on le chassait pas des cafés où il allait en haillons, mais du coup aussi il commence à se percevoir comme quelqu'un. C'est le titre de la nouvelle, un parmi tant d'autres. Et donc, il ne va plus se considérer comme prisonnier. Il se rend compte qu'il ne sait plus ce dont il a envie et qu'il ne sait plus s'il a même envie de retourner à Bombay. Ici, dans l'appartement, je ne savais plus ce que je voulais. Alors, en prenant conscience de lui-même, et ça va être, c'est le fil conducteur que je vais continuer à suivre, il acquiert une identité. Mais attention, c'est pas une nouvelle identité. C'est ça qui est passionnant dans cette nouvelle, c'est que c'est une identité tout court, quelque chose dont il n'avait jamais eu l'idée. Et jusqu'ici, il se voyait uniquement à travers son patron. Il était le domestique de son maître, et là, il commence à se considérer comme un autre homme que lui, et du coup, il commence à percevoir son patron. Jusqu'ici, il n'y a pas de description du patron. Là, il va commencer à en donner des descriptions. Il nous dit: je commençais à voir que mon patron était un homme de 35 ans, grassouillet, anxieux, qui supportait mal les remarques méprisantes de ses invités. Alors bien sûr, Santosh va succomber aux avances de la domestique noire entreprenante, il va coucher avec elle. Alors ça le met dans une angoisse absolument terrible. Il a l'impression d'avoir couché avec la déesse Kali, la déesse terrible, et après avoir couché avec elle, il va prendre un grand bain pour se purifier, puis c'est pas assez, il se frotte le sexe avec un citron, et puis ça suffit pas. À ce moment-là, il se roule par terre en poussant de grands cris de désespoir, et il finit par une méditation hindouiste pour retrouver son calme. C'est un moment tout à fait désopilant. Alors le processus d'émancipation continue. Je cite un passage. L'idée que je pouvais me libérer, c'était une idée toute simple. Mais je n'y avais pas pensé plus tôt. Avant de m'adapter à mon emprisonnement, j'avais seulement voulu fuir Washington et retourner à Bombay. Puis pour moi, tout s'était embrouillé. En me regardant dans la glace, j'avais su qu'il m'était impossible de regagner mon pays, d'y retrouver le genre de travail que je faisais là-bas, la vie que j'avais vécue. Je ne pouvais pas redevenir l'ombre d'un autre, une petite partie de sa présence au monde. Alors un beau jour, Santosh va quitter son maître, sans rien lui dire, sans donner de raison, en abandonnant tout, parce qu'il a rencontré un autre Indien qui est en train de monter un restaurant et qui lui propose de devenir cuisinier. Alors il va y réussir, parce que il est un bon cuisinier, mais du coup il va aussi beaucoup travailler. C'est beaucoup de travail de devenir un individu, alors que quand il était domestique, il avait beaucoup de temps pour regarder la télévision. Et c'est aussi le prix de la nouvelle identité et de la liberté. Alors, et au bout d'un certain temps, considérant ces problèmes de papier à travers les serveurs mexicains, dont ils disent qu'une fois qu'ils sont déguisés en indiens, ils sont assez passables comme serveurs indiens, il va retourner voir la domestique noire et lui demander de l'épouser. Et comme lui dit son patron, tu vas être un homme libre, un citoyen de ce pays, et le monde entier te sera ouvert. Sauf que ce n'est pas si simple, et que c'est tout le charme de cette nouvelle, c'est qu'on ne sait pas si ce qui arrive est mieux que le point de départ, et que de toute manière c'est impossible de le savoir. Santosh n'étant plus le même, il ne peut pas savoir s'il est plus heureux qu'il l'était au départ. Il a désormais plusieurs mondes, Washington et ses rues où il va se promener, le restaurant où il travaille, et puis sa maison dans le quartier noir. Alors cette maison, elle a pour lui toujours une drôle d'odeur, dit-il, tout m'y paraît singulier, mais ma force dans cette maison, c'est de m'y sentir étranger. Et alors, c'est là que l'ambiguïté de la nouvelle va culminer. Il nous dit, ma force dans cette maison, c'est de m'y sentir étranger, j'ai fermé mon esprit et mon cœur à toute nouveauté, à la langue anglaise, aux journaux, à la radio, à la télévision, aux images sur les murs, des coureurs et des boxeurs noirs et des musiciens noirs, je ne veux plus rien apprendre, je ne veux plus rien comprendre. Et phrase importante, je suis un homme simple qui a une fois décidé de voir et d'agir à son idée. Et c'est comme si j'avais déjà eu plusieurs vies. Je ne veux pas leur en ajouter d'autres. Je suis un homme simple qui a une fois décidé de voir et d'agir à son idée, et c'est comme si j'avais déjà eu plusieurs vies. Je ne veux pas leur en ajouter d'autres. Et la conclusion de l'histoire est assez troublante, parce que l'histoire se passe au moment des émeutes noires, des émeutes raciales aux États-Unis, et dans le quartier où il habite avec sa femme, quelqu'un a écrit sur la maison pour la protéger, « Ici, un frère, ici vit un frère ». Et voilà ce que dit Santoche. Je comprends ce qu'il veut dire, et pourtant je me demande, frère en quoi, frère de qui ? Dans le passé, j'étais mêlé à l'eau du grand fleuve, je ne m'étais jamais séparé avec une vie à moi, mais je me suis contemplé dans une glace et j'ai décidé d'être libre. Le seul avantage de cette liberté a été de me faire découvrir que j'avais un corps, que je devrais pendant un certain nombre d'années nourrir et habiller ce corps, et puis tout sera terminé. Bon, les déplacements, là, on comprend qu'ils nous séparent de la communauté, mais plus évidemment aussi, plus gravement, de l'évidence de la vie. Ils font accéder à une conscience nouvelle, ils donnent une et même des identités, ils libèrent, mais il est impossible de savoir après coup ce qui valait mieux de l'inconscience et de la dépendance ou de la conscience et de la liberté. Alors je change maintenant complètement, je n'épilogue pas plus là-dessus, je n'épilogue pas sur cette nouvelle, puisque j'y reviendrai juste en conclusion. Je vais passer maintenant rapidement à un autre, tout autre registre, c'est le déplacement touristique. Et là, je me suis servi d'un livre que pour ma part j'estime beaucoup, mais qui a été souvent controversé comme l'œuvre de l'auteur, Michel Houellebecq, c'est dans Plateforme, son roman de 2001. Alors, rapidement aussi, puisque je vois que le temps presse, le héros du livre est fonctionnaire du ministère de la Culture et il travaille dans le financement des projets d'art d'avant-garde. Mais c'est un homme qui est, dépressif, ça c'est certain, comme beaucoup des personnages de Houellebecq, assez nihiliste et désabusé, et en même temps fort conscient, en quelque sorte, de la déréliction dans laquelle il vit. Il nous dit, dès le début du livre, que j'ai les rêves médiocres de tous les habitants d'Europe occidentale, je veux voyager. Ou plutôt, je veux faire du tourisme, parce que voyager, ça implique qu'il y a des dangers, qu'il y a des barrières de langue, qu'il y a des difficultés de transport. Non, en fait, ce qu'il veut, c'est voyager sans risque, c'est-à-dire faire du tourisme. Alors, le livre de Houellebecq, pour ceux qui l'ont lu comme pour ceux qui l'ont pas lu, c'est une histoire croisée, comme d'ailleurs la plupart des romans de Michel Houellebecq. D'un point de vue narratif, c'est une histoire d'amour et de sexe entre le narrateur, qui comme par hasard s'appelle Michel, et puis Valérie, sa compagne, et c'est une histoire qui se termine très dramatique, tragiquement, puisque Valérie va mourir dans un attentat terroriste contre une station de tourisme en Thaïlande. Je rappelle que le livre a été publié en 2001, hein, à la rentrée 2001, et qu'il a donc été écrit entre 2000 et 2001. Et que le narrateur, lui, ce sera la troisième partie du livre qui est très courte, se laisse mourir à Pattaya. Et puis thématiquement, c'est le second aspect du livre, c'est une réflexion sur le tourisme dans les sociétés occidentales, et donc c'est ce qu'on appelle très traditionnellement un roman à thèse ou un roman philosophique. Alors le tourisme dans ce livre est abordé en deux temps. D'abord, première partie, la description d'un circuit aventure acheté chez Nouvelles Frontières au cours duquel Michel va rencontrer Valérie. C'est l'objet de la première partie qui s'appelle Tropic Thai. Et puis la seconde partie qui s'appelle Avantage concurrentiel entrelace l'histoire à Paris du héros et de Valérie et une réflexion sur le tourisme du point de vue de sa gestion et de son développement. Il faut dire que si Michel, le narrateur, est un consommateur désabusé de tourisme, y compris de tourisme sexuel, Valérie, elle, sa compagne, rencontrée au cours du premier voyage, travaille dans un groupe touristique, au groupe Nouvelles Frontières, et qu'elle y lance de nouveaux produits. Et donc c'est à l'occasion du lancement d'un produit innovant de tourisme que se produira l'attentat qui clôt finalement le livre et lui donne sa conclusion tragique. Alors ma présentation est schématique, bien sûr, quand on raconte une histoire, c'est toujours schématique, si on ne lit pas le roman, mais je dirais que c'est pas le roman aussi est schématique, et que ce n'est pas en l'occurrence son défaut, puisque ce caractère schématique du livre de Houellebecq permet d'exacerber les traits de la description. Alors, rapidement, puisque encore une fois, je vois que le temps a commencé sérieusement à passer, la description de l'expérience touristique de la première partie, elle est caricaturale, exacte et déprimante. Hein, circuit codifié, séjour vendu sur catalogue, groupe à effet de groupe, transport interminable, équipement standard, guide, sac, chaussures, caméscope, pharmacie portative, palace normé, guide accompagnateur tous gentils, et puis dans le package touristique en quelque sorte, eh bien le cocktail des ingrédients est bien rodé, il y a un peu de culturel, les visites de temples, un peu de tradition locale, les danses traditionnelles et la nourriture, un peu de marketing de l'exotisme, les souvenirs qu'on achète, un gros peu de consommation visuelle par caméscope et caméra interposée, un peu de sexe, un peu de tourisme sexuel au passage, des massages thaï, et puis par-dessus tout ça, beaucoup de clichés, les clichés de soi, la vie, les autres, l'humanité, le respect d'autrui, les différences, le paradis terrestre, etc., etc. Le paradoxe, quand j'ai relu le livre en préparant cette conférence, le paradoxe, c'est que il n'est question que de découverte de l'autre, d'ouverture, mais qu'on a le sentiment que, curieusement, les identités, à l'inverse, s'accusent, se durcissent et se referment sur elles-mêmes au moment même où on prétend qu'il y a ouverture à l'autre. Il y a aussi un élément très intéressant dans cette expérience touristique, c'est un constant dédoublement de soi. Il y a celui qu'on est, et hier Anna Tilreau en parlait fort bien, il y a celui qu'on est dans le monde ordinaire, hein, fonctionnaire au ministère de la Culture spécialisé dans l'avant-garde, et puis celui qu'on est dans le monde de la vacance et dans le monde de l'évasion et dans le monde du jeu. Il y a le fonctionnaire et l'aventurier, il y a la gestionnaire et la touriste culturelle. Je dirais que on est obligé de reconnaître que c'est bien ainsi qu'est l'expérience touristique standard, quel que soit le prix qu'on met dans le voyage et quelle que soit la destination plus ou moins lointaine qu'on choisit. En général, notre mauvaise foi fait que nous empêche de le reconnaître. Le mauvais touriste, le touriste ridicule, le touriste ordinaire, c'est jamais nous, bien sûr, c'est toujours l'autre, c'est toujours le voisin, c'est toujours le compagnon de voyage, c'est pas nous. Alors, trois citations, rapidement, pour épingler, en quelque sorte, ces éléments. À propos de la visite des temples, à Ayutthaya, par exemple, selon le guide Michelin, il fallait prévoir 3 jours pour la visite complète, 1 journée pour la visite rapide. Nous disposons en réalité de 3 heures, c'était le moment de sortir les caméras vidéo. Au moment de la remise des questionnaires de satisfaction, dans l'après-midi du 2 janvier, je trouvais sous ma porte le questionnaire de satisfaction Nouvelle Frontière. Je le remplis scrupuleusement, cochant en général les cases bien. C'est vrai, en un sens, tout était bien. Mes vacances s'étaient déroulées de façon normale, le circuit avait été cool, mais avec un parfum d'aventure. Il correspondait à son descriptif. Et enfin, à l'aéroport, au moment du retour, bien que le hall de l'aéroport soit entièrement couvert, les boutiques affectaient la forme de hutte avec des montants en teck et un toit de palme. L'assortiment de produits mêlait les standards internationaux, foulard Hermès, parfum Yves Saint-Laurent, sac Vuitton, aux productions locales, coquillages, bibelots, cravates de soie taille. Tous les articles étaient repérés par des codes-barres. Pour le voyageur, en fin de parcours, il s'agissait d'un espace intermédiaire, à la fois moins intéressant et moins effrayant que le reste du pays. Alors, dans la seconde partie du livre, Houellebecq va aborder de manière plus théorique le tourisme à travers les aventures professionnelles de Valérie, l'ami du héros, et les aventures de son patron Jean-Yves, qui change de société, passe de Nouvelles Frontières à une filiale du groupe Accor, qui est rebaptisé pour l'occasion le groupe Aurore. Et comme dans l'extension du domaine de la lutte, le premier roman de Houellebecq, on a une description assez cocasse et assez juste de la vie des managers d'entreprise, mais dans le secteur de l'industrie touristique. Et donc, c'est l'occasion d'une réflexion sur le développement touristique contemporain. Alors, le constat que font les acteurs, les protagonistes, dans leur moment, je dirais, de roman-réalité, dans leur vie industrielle, managériale et romanesque, c'est que le modèle fordiste du tourisme, du sea, sand, sun and sex, la mer, le sable, le soleil et le sexe, a correspondu à une époque, mais que les clubs s'essoufflent et qu'il faudrait proposer de nouveaux. Alors, il y a ceux qui proposent un tourisme d'authenticité et de rapport éthique à l'autre, et puis ceux qui défendent la lutte contre l'ennui et la découverte. Alors, ça va donner dans un premier temps l'idée de coupler les séjours balnéaires avec des circuits de découverte, de coupler les clubs et les tours opérateurs. Mais Michel, qui vit avec Valérie au soir d'un séjour en quête dans un club de Cuba, propose tout simplement d'organiser efficacement et de manière managériale le tourisme sexuel qui est déjà simplement ouvertement pratiqué à Cuba, à Saint-Domingue ou en Asie. Et donc il invente la notion de tourisme de charme et on va assister au lancement de clubs aphrodites, lesquels clubs aphrodites vont déclencher le drame final puisque c'est à l'inauguration du premier club aphrodite en Thaïlande qu'aura lieu la réaction terroriste islamique où l'héroïne va perdre la vie. Alors c'est la partie du livre qui a choqué, et il faut dire que Houellebecq ne s'embarrasse pas de nuances. Je cite là par exemple au moment où il invente la notion de club aphrodite et de tourisme de charme. D'un côté, tu as plusieurs centaines de millions d'occidentaux qui ont tout ce qu'ils veulent, sauf qu'ils n'arrivent plus à trouver de satisfaction sexuelle. Ils cherchent sans arrêt, mais ils ne trouvent rien. Ils en sont malheureux jusqu'à l'os. De l'autre côté, tu as plusieurs milliards d'individus qui n'ont rien, qui crèvent de faim, qui meurent jeunes, qui vivent dans des conditions insalubres et qui n'ont plus rien à vendre que leur corps et leur sexualité intacte. C'est simple, vraiment simple à comprendre. C'est une solution d'échange idéale. Alors, c'est pas ça qui va me retenir. De toute manière, il y a chez Houellebecq, pour ceux qui ont lu La possibilité du Nil, son dernier roman, il y a une hantise chez lui de la disparition de la sexualité et du désir, et elle est omniprésente dans tous ses ouvrages. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est le diagnostic de l'évasion comme unique moyen de se tirer d'une société qui, à force de travail et d'inventivité, a réussi, mais dont la qui finalement ne sait plus où elle va et qui sombre dans le nihilisme. Comme le dit Michel, je le cite, « Européen aisé, je pouvais acquérir à moindre prix dans d'autres pays de la nourriture, des services et des femmes. Européen décadent, conscient de ma mort prochaine et ayant pleinement accédé à l'égoïsme, je ne voyais aucune raison de m'en priver. J'étais cependant conscient qu'une telle situation n'était guère tenable, que des gens comme moi étaient incapables d'assurer la survie d'une société, voire tout simplement indignes de vivre. Des mutations survenaient déjà, mais je n'arrivais pas à me sentir réellement concerné. Ma seule motivation authentique consistait à me tirer de ce merdier aussi rapidement que possible. Le déplacement pour se tirer de là, pour fuir, pour décrocher, pour oublier, pour s'étourdir. Et c'est ici, je crois, que on pourrait prolonger la réflexion de Houellebecq par une phénoménologie de l'attitude touristique qui est présente de manière latente. Parce que le touriste, c'est quelqu'un qui est à la recherche d'un monde qui ne pèse pas, libre de l'angoisse et du sérieux du monde réel. Le touriste cherche le dépaysement, la curiosité, la découverte. Même si cette curiosité est la plupart du temps structurée par des stéréotypes et par des clichés. Et dans la réalité, les comportements sont peu idéaux et même souvent vulgaires. C'est-à-dire que le touriste est à la recherche d'une liberté négative pour se débarrasser du quotidien, pour se débarrasser de la routine, pour trouver le plaisir en quelque sorte, mais sur un fond de désir de sécurité qui lui fait chercher l'exotisme dans la redite et dans le cliché. Hein, le tourisme voudrait même jouir d'une sorte d'immunité, ne devrait être victime ni des voyous, ni des terroristes, et pas même des rats de marée et des catastrophes naturelles. Et en même temps, dans ce comportement, il y a pas mal d'irresponsabilité, d'indifférence face aux dégâts de toutes sortes causées à la nature, à l'environnement, aux groupes humains, à leur culture. Le touriste a en quelque sorte tous les droits que lui confère le décrochage d'avec les obligations du quotidien, tous les droits que confère l'état de vacances qui suspend en quelque sorte les contraintes sociales. Et je crois qu'à travers ces sortes de descriptions que je viens d'expliciter, Houellebecq a saisi très profondément une caractéristique de notre temps et j'ajouterais de l'esprit de notre temps. Alors maintenant j'en viens à ma conclusion. Le plus curieux, si on se retourne un peu en arrière, c'est de constater qu'en fin de compte, aussi bien Naipaul que Houellebecq terminent de manière très noire. Dans les dernières lignes de plateforme sont Michel dit qu'il s'apprête à mourir, mon appartement sera loué à un nouveau résident, on m'oubliera vite. Naipaul, je l'ai déjà cité, le seul avantage de cette liberté a été de me faire découvrir que j'avais un corps, que je devrais pendant un certain nombre d'années nourrir et habiller ce corps, et puis tout sera terminé. Alors, je ne veux pas dire qu'il y a une symétrie exacte entre les deux expériences qui renverraient dos à dos les deux formes de déplacement et qui déboucheraient de ma part sur un éloge de la sédentarité. Je crois plutôt que ce que nous touchons là, dans ces deux conclusions très pessimistes, c'est sur la gravité et la difficulté des questions d'identité qui sont soulevées par la notion de déplacement. Je dirais que d'un côté, on a affaire à une identité chez Houellebecq, une identité qui est un individualisme égoïste dont le touriste cherche à se défaire régressivement dans le plaisir et dans, je dirais, l'irresponsabilité. L'individualisme égoïste, oui, qu'il faut fuir de manière égoïste et sans préoccupation de responsabilité sociale. De l'autre côté, c'est une identité tout court, une identité individualiste tout court, pas encore forcément égoïste, Santoche n'est pas encore égoïste, mais que vient à conquérir celui qui fait acte de liberté et qui choisit sa vie. Et en fait, à travers cette notion de déplacement, ce que nous touchons du doigt, c'est que les identités aujourd'hui sont extrêmement lourdes à penser, et qu'en plus, elles apparaissent finalement peu de choses, c'est-à-dire fragiles, questionnables, et selon le titre de la nouvelle de Naipaul, une parmi tant d'autres. Et donc, ma conclusion, mais c'est juste une ouverture, parce que ça renvoie à, ça demanderait maintenant des réflexions beaucoup plus approfondies, c'est que on arrive à travers les questions de variété du déplacement au problème de l'identité. Qui suis-je ? Que veux-je être ? Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je ne veux pas ? Qui je veux oublier ? Qui je veux tuer en moi et ailleurs ? C'est d'ailleurs une des autres nouvelles dans le livre de Naipaul, dans Un état libre. Les déplacements et les expériences constituent des pièces dans la construction, la destruction, la reconstruction ou la fiction de l'identité. Le touriste de Houellebecq veut oublier qui il est et jouir simplement, et il en meurt. Et l'immigré de Naipaul ne sait plus ce qu'il veut, sinon qu'il ne veut plus avoir d'autre vie. Jusqu'au moment, peut-être, où il aura envie de revenir au pays en visiteur, ou d'y revenir même, ou d'aller dans un autre pays en touriste. Et je dirais qu'il n'est probablement pas surprenant que dans notre monde de déplacement, aujourd'hui, les problèmes principaux soient des problèmes identitaires. C'est-à-dire qu'on en vient tout simplement à cette reconnaissance-là. Déplacement égale problème identitaire. Les variétés du déplacement débouchent à ce moment-là sur les incertitudes de l'identité. Merci.
Yves Michaud, merci beaucoup. Nous allons maintenant passer aux questions. Alors, levez bien la main parce que... Ah, oui, il y a une question là-bas. Je ne vous avais pas vu, monsieur, désolé.
Oui, pour rebondir sur votre conclusion, je voudrais savoir si vous pensez que forcément, au cours d'un voyage touristique ou d'un déplacement, on change d'identité.
La réponse sera, je dirais, c'est selon, c'est-à-dire que je crois qu'il y a une forme de déplacement C'est ce que j'ai dit à propos de Houellebecq, une forme de déplacement qui aboutit, je dirais, au durcissement des identités. Ou plutôt, alors, je dirais, à leur dédoublement. Une chose qui est assez frappante, c'est, je sais qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'identité flexible ou de multiples aspects de l'identité, mais je crois qu'il faudrait développer un peu ça et parler plutôt des identités à la Frigoli. C'est les jeux comme ceux qui changent de costume très rapidement et qui changent de personnage. Et je crois qu'une grande partie du tourisme consiste simplement à abandonner son identité temporairement pour ensuite jouer sur des identités ludiques et un rapport de consommation commerciale des identités d'autrui. Et puis, qu'il y a un certain nombre de déplacements, alors celui du migrant, un certain nombre de déplacements qui impliquent des restructurations très très fortes de l'identité. Et alors, soit ça débouche sur c'est les citations que j'ai données de Naipaul, soit c'est des... à un moment, il y a un blocage en disant « j'ai déjà eu plusieurs vies, j'en veux pas d'autres ». Hein, où on se replie sur un certain nombre de traits identitaires dont on est sûr ou qui vous rassure, soit on bricole, je dirais, une nouvelle forme d'identité. Mais en tout cas, je crois qu'aujourd'hui, les déplacements ont à voir avec les modes de j'aime pas ce mot, mais les modes de gestion de l'identité.
Oui. Une question très courte, je vous dirai dans cette lignée, et comme vous avez parlé de phénoménologie, oui. Pardon, je vous demanderai qu'est-ce que vous pensez du changement d'identité du père de Foucault, par exemple.
Du changement d'identité de ?
Du père de Foucault, le père de Foucault quand il est arrivé dans la Sécrème, etc., quand on montre comment il s'est complètement ce coureur de jupons qui a monté pratiquement comme un couvent au sein de la Sécrème, complètement coupé du monde.
Vous me ramenez à des souvenirs de choses que j'ai appris dans le passé sur le père de Foucault, mais je crois que il y a effectivement des changements d'identité lorsque les personnes aussi décident d'adopter un mode de vie différent. Alors il est bien évident que le déplacement peut être soit l'occasion d'adopter un mode de vie différent et des politiques de soi, hein, je l'entends en un sens très fort, des politiques de soi différentes, soit pour adopter aussi une politique de soi différente, on est obligé d'aller ailleurs. Je veux dire, vous avez les deux possibilités. Vous avez aussi des gens qui ne peuvent pas, il n'est pas certain que le père de Foucault aurait pu adopter cette nouvelle mode de vie en restant dans la société où il était. Donc vous pouvez avoir, je crois, les deux, mais le déplacement, là, dans les deux cas, a une signification très importante.
Nous avons une question sur notre droite d'abord. Levez-vous, monsieur, qu'on puisse vous voir, s'il vous plaît.
Oui, bonjour. Comme vous le savez, actuellement, la psychanalyse et la psychologie est en divorce et il y a deux écoles qui se séparent. L'école donc freudienne classique qui reste, il y a des tenants, des gens qui défendent le principe œdipien, et puis il y a l'école qui défend l'inconscient. Enfin, elle dit que l'inconscient c'est multiple, c'est pas, elle se sépare de Freud et de d'Œdipe. Et je ne puis me faire le parallèle avec la société européenne et la société française en particulier, et avec le déplacement. Est-ce que l'identité finalement est un cumul de plusieurs identités, puisque chaque personne qui se déplace, elle se déplace avec son identité initiale historique, et elle compose avec la société d'accueil et elle redéfinit, elle recompose une nouvelle identité qui est déjà en elle-même une composition de deux éléments. Et comme cette personne, elle se reproduit, et finalement, in fine, on arrive à une identité d'un individu X dans une époque X, qui est finalement la juxtaposition et le cumul de plusieurs identités dans le temps. Donc, en ce qui est la question que j'aimerais vous poser clairement, qui m'intéresse par rapport à la société française dans laquelle je vis et que j'aime, il y a, pour me corriger si je me trompe, à peu près actuellement un tiers de la population française qui est d'origine étrangère. Je ne parle pas de l'immigration actuelle, je parle de celle qui est venue depuis le début du XXe siècle. Est-ce que finalement, les problèmes de la société française actuelle ne sont pas venus des déplacements d'hier? Merci.
Alors, il y a deux parties dans votre question. Je préférerais parler de la partie plus générale et plus abstraite, parce que plutôt que de sur la société française elle-même, mais vous verrez que ça a un impact, qui a une relation. J'ai aussi pas mal travaillé sur la notion d'identité dans les années récentes, et en gros, vous avez deux aspects du concept d'identité. Une identité par rapport à la mémoire et par rapport à l'histoire. Nous sommes, c'est la définition très standard, hein, par exemple de chez Locke, nous sommes l'ensemble des choses dont nous nous souvenons. Ça vaut aussi bien d'ailleurs pour un individu que d'une certaine manière pour l'identité d'un peuple. Hein. Je veux dire, quand un peuple, une nation construit son identité nationale, elle le fait en construisant une histoire. Son histoire et en la figeant, en quelque sorte. La naissance des États-nations au XIXe siècle, c'est aussi la naissance de la science historique, la naissance du culte des monuments, la naissance des musées, c'est la constitution de la mémoire. Mais il y a une identité, ça, depuis Aristote jusqu'à Hume, beaucoup de philosophes aussi l'ont dit, il y a une identité par rapport aux actions. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux faire par rapport au projet? Et un certain nombre de gens dont je suis trouvent finalement plus de sens intellectuel à l'identité par rapport au projet qu'à l'identité par rapport au récit, en quelque sorte. C'est-à-dire que vous pouvez... nous allons faire ceci, et nous nous constituerons dans ce projet d'action qui soit individuel, soit collectif. Ça peut être quelqu'un un individu qui se construit dans un projet professionnel, par exemple, je veux être telle sorte de personnage et avoir telle profession et mener telle activité, ou au niveau collectif, un groupe qui se fédère autour d'un projet. Pour moi, ce sont les deux grands sens du mot identité, et le second sens est certainement plus assignable que le premier. Pourquoi ? Parce que la construction par le souvenir ou par la mémoire, c'est toujours plus ou moins une fiction. Hein, c'est toujours plus ou moins, on se raconte une histoire. Hein, et une histoire, c'est quelque chose qu'on se raconte, et on se raconte des histoires. Donc, voilà la réponse, si vous voulez, au problème théorique. Maintenant, vous voyez très bien la relation qu'il peut y avoir vis-à-vis de la relation qu'il peut y avoir vis-à-vis du problème que vous posez sur la France. Hein. C'est-à-dire que si, et c'est malheureusement, je pense, en grande partie la solution actuelle, si on invoque la France telle qu'elle est dans son passé, dans son histoire, il n'y a aucune place pour son caractère composite, sinon le caractère composite qui a été produit au fil de l'histoire, parce que l'unité de la nation française, excusez-moi, c'est quand même l'unité d'un drôle de composition. Ou bien vous identifiez l'identité française à un projet, et à ce moment-là, il n'y a aucune difficulté à ce que cette identité soit à la fois très unitaire dans un projet et en même temps avec des personnes d'origine historiquement très très différentes.
Je viens d'avoir la réponse à la question que je voulais poser, alors je me désiste.
Alors, nous allons prendre madame sur notre côté gauche. Levez-vous, madame, s'il vous plaît.
C'est pas une question, c'est une histoire qui pose question. J'ai un jeune ami qui est professeur d'histoire-géographie. Il a d'abord enseigné l'année dernière en province, et il est revenu rejoindre sa belle en région parisienne. Donc, il a été enseignant au moment des événements de banlieue. et il m'a dit son désarroi par rapport à ce qu'il avait à faire. C'est-à-dire qu'il n'avait aucune recommandation, aucun guide. Et alors je lui ai dit, mais prends tes élèves, sors-les, amène-les à Paris, fais-leur un cours sur un monument à Paris. Et il m'a dit, mais tu y es pas du tout. Ils
pas,
sortent hein. Jamais.
Le problème, c'est que j'entends pas ce que vous dites. Je vous le dis tout de suite parce que si.
Ah bon.
Je n'arrive pas. Je sais pas comment vous dire, mais j'arrive pas à entendre ce que
on
vous
entend
dites.
Très mal ici ce que.
Vous parlez peut-être plus dans le micro.
Ah bon. Voilà. Là, c'est mieux.
Oui, c'est ça. La chambre.
Excusez-moi. Voilà. Alors, je recommence.
Allez-y.
Non, mais il vaut mieux.
Donc,
parce que
c'est
sinon,
l'histoire d'un. D'un jeune ami qui est professeur en banlieue parisienne.
Oui.
Qui n'a eu aucune directive pendant les événements.
Oui.
Son collège a eu un gymnase qui a brûlé. Et il était complètement désorienté parce qu'il n'avait aucune directive de ses supérieurs hiérarchiques. Il me dit cela. Je lui dis, prends tes gosses, amène-les à Paris, et fais-leur un cours sur un monument dans Paris. Et il me répond, tu y es pas du tout, ils se déplacent jamais. Je n'ai même pas les tickets de métro pour les déplacer. Donc, c'est cette histoire qui, pour moi, fait question, et j'ai envie de la relier à ce que vous disiez sur le projet d'identité. Pour être capable d'un projet d'identité, il faut déjà être quelque part le nez au-dessus. Et moi, ma question, c'est ceux qui n'ont pas le choix du déplacement.
Alors, je vous réponds tout de suite parce que sur ne pas le choix du déplacement, j'aurais tendance à être assez sceptique. Dans la mesure où, je ne parle pas seulement des gens de banlieue, effectivement, beaucoup de gens qui habitent dans des quartiers dits des ghettoisés ne se déplacent pas vers la ville. Mais c'est vrai aussi de beaucoup de banlieusards qui ne viennent pas à Paris et qui vivent dans leur zone. Mais en revanche, ce qu'il faut voir, c'est que, par exemple, les déplacements en direction du pays d'origine des parents sont souvent très importants. J'ai très souvent été frappé dans mon expérience de professeur, parce que je parlais souvent du déplacement, même avant de m'y intéresser de manière très très centrale. Je parlais souvent à mes étudiants du déplacement, et j'avais invariablement les mêmes réponses. Mais ce que vous dites, ça vaut pour les riches. Nous, on se déplace pas, on n'a pas les moyens. Et aussitôt, je faisais un test au même moment ou quelque temps après. Je disais, vous avez passé vos vacances où? Et je m'apercevais que dans mon groupe d'étudiants à Paris 1, Tolbiac, la composition des origines sociales de ces étudiants n'était pas une origine privilégiée. Hein, je m'apercevais que, à part 3 ou 4, tout le monde avait bougé aux quatre coins du monde, et très souvent d'ailleurs en rapport à des origines des parents. Hein, aller en Algérie, aller en Amérique latine, aller au Portugal, les gens retournent, aller chez eux. Donc je crois que d'abord l'idée qu'il y a des gens qui se déplacent pas, on n'est plus, si vous voulez, l'époque des années 30 où les gens quittaient une fois leur canton pour aller passer le conseil de révision et aller faire leur service militaire. Hein, je veux dire, mais c'est pas pour autant que les gens vont vous dire qu'ils voyagent. Ils vont vous dire que, en général, ils voyagent pas. Ou alors, quand ils partent par Air Algérie. Et quand vous allez en Algérie, sur Air Algérie, vous avez deux tiers de jeunes Français qui vont là où sont leurs attaches, plus deux tiers, trois quarts, et puis un quart d'hommes d'affaires. C'est en gros la proportion. C'est-à-dire, il y a des déplacements en ce sens-là. Il ne faut pas confondre le fait que les gens peuvent très bien ne pas quitter leur quartier, mais quand ils le quittent, ils vont à l'autre bout du monde. Hein, et sans faire de mauvaises de mauvais esprit. Moi, je suis sidéré aussi de voir les itinéraires et les péripéties d'un certain nombre de militants islamistes. Hein, pour des gens qui voyagent pas, le type là qui vient de rentrer de qu'on vient de libérer et qui était à Guantanamo, il a fait deux ou trois fois le tour du monde sur ses voyages d'étudiants en religion. Donc c'est pas si vrai que ça. Des gens qui ne bougent pas aujourd'hui, j'en vois pas beaucoup. Je veux dire.
Une dernière question, madame. Levez-vous qu'on vous voit, s'il vous plaît, parce que vous êtes bien cachée. Allez-y, madame.
Oui, moi j'ai beaucoup apprécié votre exposé et la façon dont vous l'avez traité à partir de deux auteurs, donc Naipaul et Houellebecq. La seule chose que je regrette un tout petit peu, c'est que vous n'ayez pas choisi un troisième auteur qui aurait fait l'éloge du voyage passionnant dans le monde entier pour les gens qui peuvent le faire encore, ou ne serait-ce que pour nous Français, l'éloge de l'Europe et des 24 autres à aller voir chez eux s'il est possible, dans le cadre même d'autre chose que des voyages à la Houellebecq organisés, mais des voyages à la limite bed and breakfast, où on est chez les gens et où on peut, dans des conditions financières acceptables, voir le pays et, à la limite, le préparer d'une façon approfondie en bibliothèque, avant de partir, autrement dit, d'apprendre, de voir les autres qui sont différents de nous, très différents si on va en Chine, en Inde, ou etc., moins différents, mais quand même très variés dans l'Europe entière d'aujourd'hui. Voilà.
Alors, je suis très heureux de votre question. Bon, d'une part, je n'avais pas trop le temps d'en rajouter encore un troisième aspect, mais surtout, je vous dirais que je m'interroge sur ce qu'il reste de ce genre de voyage aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on est aujourd'hui la normalisation la marchandisation, en quelque sorte, du déplacement touristique, ont atteint un point tel que le voyage du voyageur, à mon avis, il en reste plus beaucoup. Je vous aurais parlé volontiers de Nicolas Bouvier, par exemple, mais Nicolas Bouvier, c'était pour aller aux portes de l'Inde, à travers l'Iran, l'Afghanistan et l'Iran, simplement vous réfléchissez aujourd'hui comment on fait. Hein, vous pouvez pas. Aujourd'hui, vous pouvez pas partir avec une 4 chevaux ou je ne sais quoi, et puis traverser tous les pays, ne serait-ce que pour des raisons d'insécurité, de frontières, des choses comme ça. Je suis pas si sûr que ça, que la normalisation et la marchandisation du tourisme n'est pas atteint jusque au voyage à l'ancienne, en quelque sorte. Hein. Je ne sais pas ce qu'il en reste. C'est pour ça que je ne m'y suis pas tellement aventuré. Ou alors il y aurait le voyage, je dirais, éventuellement la dérive peut-être, mais cette fois-ci ce ne serait pas un voyage, je veux dire, forcément agréable, ça serait justement être à la dérive.
Yves Michaud, merci beaucoup.